sind gestolz am Wille, sich dem Herrn gehorsam beugt.
Sacré.
Alles will ich Jesus weihen, hatte alle Welt für Spreu.
Je veux te consacrer tout, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, le donner à mon Sauveur, qui, lui, m'a tout donné, et qui renouvelle tout, tout à ta disposition, à tes pieds. Soumis à toi dans l'obéissance. Tout. Ici, mon Seigneur et mon Dieu, oui, mon Sauveur, je veux tout consacrer. Je veux tout donner à Jésus, tout lui mettre à sa disposition. Toutes mes pensées, tout ce que je fais, lui remettre tout à ses pieds, tout mon cœur, toute ma force. Lui qui crée toutes choses nouvelles et qui peut tout, lui mettre tout à sa disposition. Ici, mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur, je veux tout consacrer. Il reste roi, il demeure roi, même si tout passe. Il vit éternellement, même si tout meurt. Jésus, le Tout-Puissant qui a tout vaincu, qui nous a acquis l'héritage au ciel, que tout se brise et s'écroule et disparaisse, la miséricorde de Jésus demeurera éternellement. Amen. Elle nous demeure accordée pour toujours éternellement. Moquez-vous, vous, ennemis. Nous demeurons ferme, même si on nous rejette, nous persécute et qu'on nous fait du mal et que plusieurs abandonnent et quittent Jésus, nous demeurons croyants et attachés à la tête. Et ainsi nous atteindrons le but. Jésus a tout entre ses mains. Il est roi au milieu de l'adversité. Lui qui a pu accomplir toutes choses à la croix t'accorde, t'offre aujourd'hui sa vie. Ceux qui veulent nous détruire ici et nous déranger, feront que nous rapprocher de Dieu et nous faire prendre part encore plus au salut. Ici, Emmanuel, devant son armée, qui se conserve pour lui-même son Église, lui, au milieu, comme rempart et armure, demeure aussi avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Puissant dans le combat. Puissant dans le combat.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
chers frères et sœurs dans le Seigneur,
zur heutigen Andacht,
à l'occasion de cette réunion d'aujourd'hui de Zurich,
grüßen wir alle,
nous saluons tout le monde, dans le monde entier, au nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur, Jésus-Christ. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir un grand Dieu, tout-puissant, qui veille sur nous et prend soin de nous. Nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur pour le grand privilège qui nous est accordé depuis plus de 50 ans d'entendre ici à Zurich, le dernier dimanche de chaque mois, le pur et véritable message divin de la bouche d'une personne mandatée. Comme témoignage, à la gloire de Dieu, je voudrais témoigner aujourd'hui que j'ai pu assister à ces réunions bénies presque depuis le début, depuis leur début, sans interruption. Au cours de cette longue période, je n'ai jamais été déçu. Au contraire, j'ai toujours été richement béni, fortifié et revitalisé avec ma famille. Souvent, j'ai aussi été touché dans mon corps et relevé pendant la prédication. Nous sommes également reconnaissants de tout cœur au Seigneur pour la grande grâce qu'il nous a faite de conserver notre frère bien-aimé Franck jusqu'à l'âge avancé de bientôt 90 ans, donc 90 ans. C'est vraiment un grand privilège d'avoir trouvé une grâce imméritée devant Dieu et qu'il nous ait accordé le salut éternel. Avant la prière, je voudrais lire une parole tirée d'Hébreux 4. Je lis Hébreux 4. Du verset 12 jusqu'au verset 16. Car la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, verset 12 à 16. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et elle juge les intentions et les pensées du cœur. Et il n'y a rien de créé qui puisse se cacher devant lui, non. Tout est mis à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une joyeuse assurance du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et trouver grâce pour un secours opportun. Je lis encore dans le chapitre 5, du verset 5 à 10.
So hat denn auch Christus sich nicht selbst die hohe Würde des hohen Priesters.
Ainsi donc, le Christ ne s'est pas attribué à lui-même la haute dignité de souverain sacrificateur, mais celui qui lui a dit: Tu es mon fils, Je t'ai moi-même engendré aujourd'hui. Comme il dit aussi dans un autre passage, donc maintenant Hébreux 5, verset 6, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Dans les jours de sa chair, il a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé dans son angoisse. Et qui, malgré sa condition de fils, a appris l'obéissance par ses souffrances. Ayant ainsi atteint la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Celui à qui Dieu a donné le nom de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole qui demeure éternellement et qui est et demeure à nos pieds une lampe. Amen. Nous allons maintenant prier. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, ta fidélité et ta miséricorde qui sont chaque jour nouveaux, qui se renouvellent tous les matins. Merci Seigneur parce que tu es toujours le même. Ta parole aussi est toujours vivante, efficace et plus tranchante que toute épée à double tranchant. Nous te sommes profondément reconnaissants de ce qu'aujourd'hui encore nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit aux églises et de ce que la parole ne revient pas à vide, sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel tu l'envoies, tu l'enverras. Seigneur, nous aimerions nous approcher du trône de la grâce en ce moment même, afin que nous soyons tous aidés. Nous mettons aussi notre volonté dans la tienne, afin que tu puisses recevoir ce qui te vient de plein droit, arriver à tes fins avec nous et que ton bon plaisir se repose sur nous. Seigneur, fais ta demeure dans nos cœurs, afin que celui qui est en nous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Bénis et fortifie en particulier ton fidèle serviteur. Prends-le par la main droite. Guide-le et conduis-le dans cette période difficile avec ton Saint-Esprit et renouvelle sensiblement sa jeunesse. Aide et bénis également tous les frères servants et l'ensemble de la troupe rachetée par le sang dans le monde entier et fais en sorte que tous marchent d'un même pas vers le but glorieux. Nous te remercions d'avoir accompli pour nous tous une rédemption éternelle, unique et total. Tu es le vainqueur de Golgotha. Ta victoire est aussi la nôtre. Que la victoire de Golgotha se manifeste aujourd'hui de manière puissante. Telle est notre prière à tous. À toi, le seul vrai Dieu, revienne tout honneur. Tout honneur, toute louange, tout remerciement et toute adoration au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais moi aussi saluer chaleureusement tous ceux qui sont proches et loin. Nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur, Dieu, que nous puissions avoir cette mission en direct de Zurich. Nous sommes reconnaissants pour la parole d'introduction. Nous pouvons nous y plonger et constater toujours à nouveau ce que notre Seigneur a fait pour nous. Oui, nous sommes de tout cœur reconnaissants à frère Baumgartner et à tous les frères de Suisse que ce message soit parvenu d'ici aussi au monde entier et que tous puissent l'entendre et le vivre. Frère Branham était dans les deux pays. Il était en Allemagne, il était en Suisse, et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons reçu une part directe de ce que Dieu a promis pour cette dernière partie de la parole, pour cette dernière période dans la parole. Et bien sûr, j'ai particulièrement à remercier Dieu de m'avoir donné dès le début la confiance, la foi en l'envoi, en l'appel au mandat qu'il a donné à frère Branham par grâce. Pas une seule fois une question ne s'est posée, non. Je savais qu'il était un homme envoyé de Dieu. Tous ceux qui ont entendu la parole d'introduction, s'il vous plaît, veillez la relire. Encore une fois, nous reviendrons plus en détail sur ce sujet que notre Seigneur était souverain, sacrificateur. Mais il me vient cette pensée à l'esprit du 11 juin 1933, lorsque frère Branham a reçu le mandat direct d'apporter le message. Et puis, je pense au 11 juin 1958 à Dallas, Texas, lorsque frère Branham m'a dit, après la conversation, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Nous sommes tout simplement reconnaissants. Je suis reconnaissant que le ministère que le Seigneur m'a donné soit directement lié au ministère de frère Branham. Écoutons encore quelques passages bibliques et abordons les brièvement. Que tous les frères de tous les peuples et de toutes les langues, tous les frères servants soient bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. C'est grâce et encore grâce que nous avons reconnu l'époque dans laquelle nous vivons et les promesses que Dieu a faites pour cette période. S'il te plaît, nous lisons dans Hébreux, Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, sortit à la rencontre d'Abraham au retour de sa victoire sur les rois et les bénit. Hébreux 7, verset 1. Comme nous le verrons plus loin, tout de suite, notre Seigneur était déjà donc roi et sacrificateur. Déjà dans l'Ancien Testament, il était déjà tout dans l'Ancien Testament. Et ce qui appartenait au Nouveau Testament a ensuite été manifesté. S'il te plaît. Maintenant, le verset
2.
C'est pour cela qu'Abraham lui a aussi reparti le dixième de tout le butin. Donc la dîme de tout le butin. D'abord, si l'on interprète son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem. Ce qui signifie roi de paix. Oui, il est tout cela, roi de Salem, roi de Jérusalem, Jérusalem. Oh, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir toujours affaire au même Seigneur. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, que son nom soit loué. Je t'en prie, nous lisons le verset 3. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Dans l'Ancien Testament, pas de père, pas de mère, et pourtant, sacrificateur, grand et souverain sacrificateur, roi, oh, loué soit son nom glorieux. Et dans le Nouveau Testament, il est venu à nous et est malgré tout resté le même roi, le même sacrificateur et le même souverain sacrificateur. Continuons à lire, poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Hébreux, maintenant toujours Hébreux, le chapitre 9, le verset 7, à partir du verset 7.
In den zweiten Raum dagegen,
Hébreux 9, maintenant le verset 7. Dans la seconde salle, située à l'arrière, en revanche, selon eux, seul le souverain sacrificateur peut entrer une fois par an, non sans avoir offert du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. C'est également l'une des pensées principales qui font partie du plan du salut de Dieu. Entrer dans le lieu très saint en tant que grand et souverain sacrificateur. Les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et lui, en tant que souverain sacrificateur, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. C'est là que se trouvait l'arche d'alliance, l'autel des parfums, et notre Seigneur et Rédempteur, en tant que souverain sacrificateur, a offert son propre sang sur l'arche de l'Alliance et a accompli une rédemption éternelle. En tant que souverain sacrificateur, nous le savons tous, il avait le pectoral avec les 12 pierres des 12 tribus d'Israël. Et il le portait sur sa poitrine. Oh, remercié soit l'Éternel, notre Dieu, car les 12 tribus d'Israël et tous les peuples, les langues et les nations étaient inclus dans le plan de salut de Dieu. Mais le pectoral avait une signification particulière. Il est désigné comme étant la lumière et le droit. Donc la lumière et la justice, appelés l'Urim et le Thummim. Et c'est alors que cela se produisit, que si quelqu'un disait quelque chose et que c'était vrai, une lumière surnaturelle jaillissait du pectoral pour confirmer que c'était vrai. Si quelque chose était dit et que ce n'était pas vrai, alors la lumière restait sombre. C'était la jurisprudence. C'était le jugement. Il en va exactement de même pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, bien-aimés, puissent tous ceux qui servent avec la parole, que tous puissent porter le pectoral et se rendre compte que l'enseignement des 12 apôtres a simplement été donné par Dieu lui-même. Puissent-ils tous comprendre que l'Ancien et le Nouveau Testament sont achevés et complets en eux-mêmes, que personne ne peut y ajouter quoi que ce soit. Un testament est un testament. Je voudrais le souligner encore une fois. Dans l'Ancien Testament, toutes ces choses ont signifié une préfiguration de la réalité qui serait ensuite dans le Nouveau Testament. Passons rapidement à l'Apocalypse au chapitre 2. Il y est écrit, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas. Pourquoi pas? Parce que leur enseignement n'était pas conforme à celui des premiers apôtres. C'est à nous, c'est notre devoir, notre tâche de prendre cette sainte parole de Dieu comme un pectoral, comme une lumière et une justice, comme une lumière et un droit. Et tout ce qui n'est pas écrit ici dans ce testament, noir sur blanc, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, vous pouvez l'oublier. C'est la pure, ici, la parole de Dieu, la Bible est la pure vérité. Elle est la vérité absolue, achevée, close, à laquelle rien ne peut être ajouté ni retranché. Rendons grâce au Seigneur pour cela, s'il te plaît. Nous lisons d'Hébreu, le chapitre 9, le verset 11 et Hébreux 9, verset 11 maintenant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce n'est pas non plus au moyen du sang des boucs et des veaux, mais au moyen de son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste et qu'il a exécuté une rédemption éternelle. Remercié soit le Dieu vivant. Une fois pour toutes, une rédemption éternelle accomplie par le sang de l'agneau versé sur la croix à Golgotha. Ô frères et sœurs, bien-aimés, même si doctrinalement ce n'est pas adapté à l'époque où nous sommes arrivés, nous avons la chose principale à proclamer. Car celui qui passe dans l'éternité, qui quitte le temps et passe dans l'éternité sans avoir été racheté de son vivant, en subit les conséquences pour toujours. Heureux l'homme qui reconnaît de son vivant que Dieu était en Christ, qu'il a réconcilié le monde avec lui-même et qu'il nous a offert, accompli une rédemption éternelle par le sang qui a été offert dans le lieu très saint, sur l'arche de l'Alliance. Sur l'arche de l'Alliance. Et nous avons accepté ce don de la grâce de Dieu et nous sommes devenus un peuple de rois et de sacrificateurs, des fils et des filles de Dieu par la grâce. S'il te plaît. Nous lisons dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, du verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 7. Non, il s'est même dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Pour cela aussi, nous remercions notre Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, pas de père, pas de mère. Celui qui marchait déjà dans le jardin d'Éden et qui a créé l'homme Adam à son image, c'est le même. Il est tout en tous. Roi, sacrificateur et prophète. Tout en tous. Dans le Nouveau Testament, il est devenu notre égal. Il est devenu semblable à nous. Sans entrer ici dans les détails de la naissance de notre Rédempteur, mais il s'est fait homme. Et c'est ainsi devenu homme et trouvé semblable à un homme afin de pouvoir nous comprendre, toi et moi, dans toutes les situations qui peuvent nous arriver, d'avoir de la compassion et ainsi de suite. Dieu a pris soin de tout cela. Qu'il en soit remercié. S'il te plaît. Maintenant le verset 8. Il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est le verset le plus important. L'obéissance. Nous savons tous que l'incrédulité et la désobéissance ont été le péché originel dans le jardin d'Éden. La foi et l'obéissance vont de pair. Notre Seigneur et Sauveur est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour que nous qui avons été crucifiés avec Christ puissions être à notre tour obéissants et ainsi servir le Seigneur de tout notre cœur, par amour et non par obligation. Il faut, tu dois, non. Nous devons seulement naître de nouveau. Tout le reste nous a été donné. De même que dans la création naturelle, seule la naissance est une nécessité. La naissance doit être là. Mais au moment où la naissance a vraiment eu lieu, l'être humain est pleinement là. Il existe de la tête aux pieds et lorsque la croissance est arrivée, nous pouvons percevoir tous les domaines sans avoir à faire d'efforts pour cela. Il en va exactement de même dans le domaine spirituel. Celui qui est vraiment né de Dieu surmonte le monde, vainque le monde, et la vie divine en nous se répercute, agit en nous, et nous pouvons ainsi, par cette vie, suivre notre Seigneur dans la foi et lui obéir et lui rendre gloire. Encore, maintenant le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Philippiens 2, verset 9. Quelle parole glorieuse. Oui, il est écrit. Tout genou, où qu'il soit, fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants, non seulement de contempler, d'observer toutes ces paroles glorieuses, mais ne pas seulement les observer, mais aussi de reconnaître pourquoi, pour quelle raison notre Seigneur a été efficace déjà dans tout l'Ancien Testament, agissant dans tout l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau Testament, il est devenu homme, il est né dans ce monde, et ce, en tant que fils. Cela aussi doit être souligné. Là où il est écrit roi, là, c'est roi qui doit être laissé. Là où il est écrit médiateur, là c'est médiateur. Là où il est écrit avocat ou intercesseur, là c'est avocat, là c'est intercesseur. Là où il est écrit fils, Là, c'est le mot fils qu'on doit laisser, né en tant que fils, pour nous replacer, nous ramener dans la stature de fils et de fille de Dieu. Nous qui étions destinés à être des fils de Dieu dès le commencement, nous avons été perdus par la chute de l'homme. Nous étions destinés à être immortels en tant que fils et fille de Dieu, avec notre Dieu, et cela pour l'éternité. Mais ensuite, la chose terrible s'est produite dans le jardin d'Éden. L'incrédulité, le doute, tout est venu, et soudain, la transgression, la chute, la séparation d'avec Dieu, la mort, et voilà que la première chose que Dieu avait prévue était terminée. La deuxième était arrivée. Mais voici le point sur lequel je veux insister. La volonté initiale, primitive de Dieu était que nous soyons éternellement avec notre Père Céleste en tant que fils et fille de Dieu au ciel. La volonté permissive de Dieu était que la chute se produise et que la rédemption soit nécessaire et que notre Seigneur ait réparé le mal, pris sur lui la mort, le péché, la désobéissance, tout. Il a pris tout sur lui et par la croix, à Golgotha, par le sang précieux et saint dans lequel se trouvait la vie de Dieu lui-même, la vie divine et éternelle, l'offrir pour nous afin que nous soyons ramenés à la destinée originelle conçue par Dieu de toute éternité déjà. Donc, encore une fois, il y a la volonté absolument parfaite de Dieu. Et il y a eu la volonté permissive de Dieu, que Dieu permet. Nous avons été retirés de la volonté permissive de Dieu et nous avons été rachetés et introduits dans la volonté éternelle et permanente, parfaite de Dieu. Et nous serons pour l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur, aussi vrai que nous avons reçu de notre vivant la vie éternelle. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Jean au 5e chapitre, au verset 11, « Celui qui a reçu le Fils de Dieu a la vie éternelle. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui veut vivre éternellement doit recevoir et accepter Jésus-Christ comme le Sauveur, car c'est seulement en lui et par lui que nous recevons la vie éternelle. S'il te plaît. Et je lis et Philippiens 2, maintenant le verset 10. Philippiens 2, verset 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous l'avons déjà mentionné. Pour moi, tous ces passages bibliques sont si précieux. On peut toujours les mentionner à nouveau, les proclamer à nouveau. Et la grâce que Dieu nous a donnée, non seulement d'être des enfants de Dieu, non pas seulement de croire au Rédempteur et à la rédemption, mais de croire aussi chaque promesse biblique, de croire toute la parole sainte, chaque verset, même les passages bibliques qui se réfèrent à notre époque, que Dieu enverrait un prophète comme Élie, comme c'est écrit dans les derniers versets du prophète Malachi, pour tourner, pour ramener, retourner de nouveau le cœur des enfants vers leur Père. Et si nous ajoutons tous les autres passages bibliques sur ce sujet, que maintenant aussi, avant le retour de Christ, un dernier message est envoyé dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, comme dernier appel avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et s'il est écrit dans Actes des Apôtres, 3 au verset 20, que le ciel doit recevoir notre Seigneur jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé dès le commencement par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, nous le croyons, notre Rédempteur bien-aimé attend dans le ciel jusqu'à ce que l'Église, et nous pouvons ici dire jusqu'à ce que l'Église épouse, car c'est ainsi qu'il est écrit, pas seulement l'Église, il est écrit, car l'Esprit lui d'abord dit ce qui doit être dit aux Églises. Ensuite, dans les sept écrits, il est écrit, béni celui qui entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Mais ensuite, il est écrit, et l'Esprit et l'Épouse. Et l'Épouse disent, viens. C'est parmi tous ceux de toutes les Églises que le dernier appel maintenant est lancé. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et maintenant, l'Église épouse est appelée maintenant à sortir des Églises, à croire à l'Époux, à la parole de l'Époux, et à aller ainsi à sa rencontre, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Et son épouse s'est préparée. Comme il est écrit dans Matthieu 25, voici l'époux vient. Et ceux qui étaient prêts sont entrés au festin des noces. Ou bien alors celles qui étaient prêtes entrèrent. Je conclurai en résumant. Autant le Seigneur, aussi certain que le Seigneur a fait des promesses pour la première venue de Christ, aussi certain aussi il a fait des promesses maintenant qui s'accompliront avant la seconde venue de Christ. Et tous ceux qui sont de Dieu ne se contenteront pas de lire la Bible et de la mettre ensuite de côté, mais seront réellement conduits maintenant par l'Esprit de Dieu dans toutes les vérités de la parole de Dieu. Disons-le avec une profonde douleur. Actuellement, nous avons 352 églises et communautés dites chrétiennes réunies au sein du Conseil mondial des églises. Et toutes enseignent et croient quelque chose de différent. Et toutes ont la même Bible. Et à la fin, l'homme responsable dit, bien que nous soyons tous fondamentalement différents, nous sommes un dans la Sainte Trinité, dans laquelle nous sommes tous un. C'est à hurler de douleur. On ne peut pas le dire autrement. Le mot Trinité n'existe même pas dans la Bible. Le mot Dieu Trinitaire n'existe pas dans la Bible. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le mot Fils éternel n'existe pas dans la Bible. Le mot Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas du tout toutes ces formulations qui ont été faites par toutes les différentes dénominations. Et c'est pourquoi il faut le dire très clairement. Ceci est le jour maintenant que le Seigneur a fait. Ceci est l'heure de Dieu. Où seulement cela est annoncé, est prêché. Un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, et aussi certain qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'une seule rédemption, qu'une seule vie éternelle. Ce Dieu unique, ce seul Dieu unique s'est révélé comme Seigneur dès le commencement dans Genèse 2 déjà. Genèse chapitre 2, ce n'est pas une autre personne, mais le même Dieu invisible et éternel qui est esprit est sorti de l'éternité pour entrer dans le temps. Et c'est là, dans le temps, qu'il s'est manifesté sous une forme visible déjà dans l'Ancien Testament en tant que Yahvé, en tant que Seigneur. Et c'est ainsi que nous le voyons dans tout l'Ancien Testament. D'une part, à côté de Dieu, d'autre part, en tant que Dieu lui-même. Il en va exactement de même dans le Nouveau Testament. Il est les deux. Il est Emmanuel. Tu appelleras son nom Emmanuel. Et ce qui signifie Dieu avec nous. Et tu appelleras son nom Yahshua. Chez nous, nous disons Jésus, Yahshua, donc Jésus, Yahvé Sauveur, Yahshua. Il est les deux. Il est Elohim et il est Yahvé, selon la tâche dans laquelle il nous est montré dans la parole. Oh, comme je suis reconnaissant à mon Dieu et Seigneur. Mon sauveur, mon rédempteur, tout aussi brièvement mentionné, le baptême
jeder Mensch,
tout homme qui s'arrête à Matthieu 28, 19, doit réfléchir au fait qu'il est écrit ici et baptisez-les dans le nom, s'il vous plaît, au singulier, quel est le nom dans lequel le Père s'est révélé comme Fils et Saint-Esprit? Quel est le nom? Le Père. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Quel est le nom? Mon Dieu, réveillez-vous! Revenez à la raison. Revenez à la parole de Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés depuis le chapitre 2 des Actes des Apôtres ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Et je le dis à tous, avec insistance, ceux qui n'ont pas encore été bibliquement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, faites-vous baptiser dès aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous n'avons même pas évoqué l'époque, le temps dans lequel nous vivons, les signes des temps. Nous les trouvons tous dans les nouvelles. Que Dieu bénisse tous les frères, toutes les sœurs, tous les frères servants de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, et qu'il nous fasse la grâce de faire partie de ceux qui sont maintenant appelés à sortir, de ceux qui peuvent dire sincèrement et s'accorder. L'esprit et l'épouse disent « viens » et que celui qui l'entend dise « viens ». Et nous croyons que la venue du Seigneur est à la porte. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Amen. Allume ton feu dans mon cœur et qu'il brûle, bien-aimé Sauveur, ce que je suis et ce que j'ai, que cela t'appartienne. Prends mes mains et lie-moi à toi, source de vie et de joie. Tu illumines l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu m'aides dans la détresse. Tu m'aides. Tu me secours dans la détresse. Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur et mon Dieu. Que tu puisses me garder quand Satan menace. Tu es le Sauveur, Seigneur, du péché et de la mort. Dans l'obscurité du monde, ton étoile m'illumine. Seigneur, demeure avec moi. Ne t'éloigne jamais de moi. Source de vie et de joie. Source de toutes choses. Tu illumines l'obscurité de mon âme. Tu exauces mes prières. Tu me secours. La détresse, Jésus, mon Sauveur, Seigneur et Dieu. Bientôt, la lumière éternelle brillera pour nous. Réjouis-toi, âme, et ne te décourage pas. Que les lamentations cessent quand ce cantique résonne. Sois joyeuse. Notre Seigneur revient bientôt. Source de vie, source de joie. Tu illumines l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu me secours de la détresse, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu.